France Inter.
Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Autant en emporte l'histoire. Aujourd'hui, 1855, Victor Hugo à Guernesey. L'exil de Victor Hugo avait débuté en décembre 1851, quelques jours après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Menacé d'arrestation, le député et poète, muni d'un faux passeport et déguisé en ouvrier, s'enfuyait à Bruxelles. Mais bientôt, il était prié de quitter la Belgique. Réfugié un temps sur l'île de Jersey, l'opposant à Napoléon III, Napoléon le Petit comme il l'appelait, a fini là aussi par déranger. En 1855, c'est à Guernesey cette fois que le poète a posé ses valises. Pour combien de temps ? Dans l'histoire, nombreux sont les écrivains qui ont subi l'expérience douloureuse de l'exil politique. « L'exil est le pays sévère », écrira Victor Hugo. Là, tout est renversé, inhabitable, démoli et gisant. Mais c'est en exil aussi que le génial écrivain publie Les Misérables, Les Châtiments, Les Contemplations, La Légende des siècles. Et Victor Hugo n'est pas seul. L'accompagne dans cette épreuve sa femme Adèle, ses deux fils et sa fille, et même sa maîtresse Juliette Drouet. Une étrange tribu qui ne sortira pas indemne de ses 20 années d'exil.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Jean-Marc Ovas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de littérature à Sorbonne Université et l'auteur d'une biographie, notamment de Victor Hugo, qui fait référence aujourd'hui. Alors, est-ce que les années d'exil vont marquer un tournant dans la vie de Victor Hugo, comme écrivain, comme homme politique, et puis aussi dans sa situation familiale et sentimentale ?
Oui, oui, c'est le grand tournant. La chose qu'il faut se représenter, c'est que quand il arrive en exil, il a déjà à peu près vécu la vie de Balzac, enduré. Victor Hugo commence une deuxième carrière en exil. Alors, c'est un peu schématique. On ne faut pas non plus creuser trop l'opposition. Il a aussi écrit des choses très importantes avant l'exil. Mais quand même, c'est un autre Victor Hugo qui se déploie en arrivant en exil.
Et l'homme politique ?
L'homme politique est entièrement transformé. Bon, pour le dire vite, il y a eu deux ruptures dans la vie de Victor Hugo, deux ruptures énormes. Celle qui est très connue et qui est la mort de sa fille Léopoldine en 1843. Et puis, l'exil.
Morte noyée
dans un accident sur la Seine. Et puis, le départ en exil en 1851. Après la mort de sa fille, il a eu beaucoup de mal à se remettre à l'écriture. Il s'est consacré à la vie politique d'abord. C'est par la politique qu'il est rentré à la littérature et arrive l'exil. Enfin, avant l'exil, la Deuxième République. Et à ce moment-là, il change de nature en revenant à la littérature, en intégrant son combat politique de la Deuxième République.
Voilà, pour le dire. C'est un républicain quand il arrive
Il arrive en exil. C'est l'opposant principal au nouveau dictateur, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a fait son coup d'État, qui n'est pas encore empereur, il ne s'est pas encore fait couronner empereur, mais enfin, il a fait ce coup d'État, il a franchi le Rubicon, et au moment du coup d'État, il y a un appel aux armes, c'est pas rien, un appel aux armes qui est rédigé et signé par Victor Hugo en son nom. Donc ça, c'est vraiment très grave, c'est-à-dire qu'il est en danger de mort en restant à Paris.
Il est surveillé quand il est en exil, que ce soit à Bruxelles, à Jersey ou à Guernesey.
Il est constamment surveillé. D'abord, il y avait énormément de mouchards parmi les exilés eux-mêmes, et puis la police de Louis-Napoléon Bonaparte, il était en permanence surveillé. Et son courrier n'arrivait pas, ou était ouvert, enfin, c'était vraiment très compliqué à vivre.
Il n'est pas le seul proscrit, il y a d'autres proscrits français qui sont eux-mêmes à Bruxelles, à Jersey ou à Guernesey.
Bien sûr, il y a d'autres...
Toute une communauté.
Il y a d'autres républicains, simplement, avec la durée de l'exil, ils vont être de moins en moins nombreux. Alors, les deux connus, finalement, c'est Hugo le plus connu de loin, et puis Edgar Quinet en Suisse.
Jean-Marc Ovas, pouvez-vous nous présenter brièvement les autres protagonistes de cette histoire ? Il va y avoir Adèle, l'épouse, les fils, Charles et François-Victor, et la fille Adèle, elle s'appelle comme sa mère, on va l'appeler Adèle Hugo, et la mère Adèle Fouché pour faciliter la compréhension. Et puis bien sûr Juliette Drouet.
Alors, l'idée de Victor Hugo en partant en exil, c'est de pouvoir reconstituer sa famille avec lui. C'est quelque chose de très important pour lui, la famille, et il n'imagine pas du tout partir seul. Et pour cela, alors c'est compliqué parce que ses deux fils sont en prison pour fait de presse, parce qu'ils ont écrit des articles critiques envers le régime. Donc il a ses deux fils en prison au moment où il part en Belgique d'abord. Et quand il décide de s'installer à Jersey, l'idée c'est de réunir sa famille autour de lui. Donc d'abord il part tout seul en Belgique avec Juliette Drouet, qui l'accompagne toujours et qui l'accompagnera toujours. Mais son épouse, sa fille et l'un de ses fils viennent le rejoindre à Jersey. Charles, lui, arrive directement à Bruxelles dès sa sortie de prison. Il arrive à Jersey à reconstituer donc toute sa famille et Juliette Drouet habite à côté de là où il habite lui-même.
Donc Juliette Drouet, c'est sa maîtresse officielle,
sa maîtresse depuis 1830, et elle va jouer un rôle très important puisque c'est elle qui s'occupe d'apporter tous ses manuscrits de France. C'était quand même un voyage très périlleux, donc lui il part sans ses manuscrits, c'est Juliette qui le rejoint peu de temps après avec la malle aux manuscrits et qui donc sauve une partie de son œuvre, notamment dans cette malle des manuscrits, il y a la première moitié des Misérables.
Jean-Marc Ovas, je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1855, Victor Hugo à Guernesey, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Louise Loubrieux.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. À celle qui est restée en France, Guernesey, le 2 novembre 1855. Léopoldine, ma fille, c'est avec toi que s'ouvrent les contemplations et c'est avec toi qu'elles s'achèvent. Toi, mon autre moi-même, chaque jour je t'entends, je te parle. Je sais que tu te réjouis de notre installation dans cette île si accueillante, tout l'inverse de la perfide Jersey. Si tu voyais la vue depuis le dernier étage de la maison, j'écris dans une solitude splendide, comme perché à la pointe d'un rocher, ayant toutes les vastes écumes des vagues et toutes les grandes nuées du ciel sous ma fenêtre. J'habite dans cet immense rêve de l'océan. Je deviens peu à peu un somnambule de la mer. Et devant ces prodigieux spectacles, je finis par n'être plus qu'un témoin de Dieu. C'est de cette éternelle contemplation que je m'éveille de temps en temps pour écrire ou penser à toi. Il y a toujours sur ma strophe ou sur ma page un peu de l'ombre du nuage et de la mer. Ma pensée flotte, va et vient, comme dénouée par toute cette gigantesque oscillation de l'infini.
Quelques jours après son arrivée à Guernesey en octobre 1855, Victor Hugo met le point final aux contemplations, immense recueil de 11 000 vers qu'il dédie à sa fille Léopoldine qui s'est noyée en bateau et dont le souvenir l'obsède. Exilé depuis 1851, l'écrivain le plus célèbre de son temps a dû quitter l'île de Jersey pour avoir critiqué la venue en Angleterre de Napoléon III. À Guernesey, l'ont suivi ses fidèles, Adèle Fouché, sa femme, Adèle Hugo, leur fille, ses deux fils, Charles et François-Victor, ainsi que Juliette Drouet, l'amante de toujours, avec qui il entretient une liaison depuis 20 ans. Juliette emménage dans une maison voisine de celle des Hugo, d'où les amants peuvent se faire signe d'une fenêtre à l'autre. Si l'existence des deux foyers est connue de tous, les convenances exigent que Juliette reste en retrait de la vie familiale. Mais en ce matin du 6 décembre 1855, Victor Hugo est perturbé par d'étranges événements qui se sont déroulés dans la nuit.
Eh bien, nous voici tous bien matinaux.
Presque. Charles dort encore. Ça ne m'étonnerait pas que ce gredin ait fini la dernière bouteille du cellier avec Suzanne.
Où en es-tu de ta traduction de Shakespeare, François-Victor ?
Elle avancerait mieux si Charles ne m'avait pas lancé ce défi idiot à qui prendrait le plus de bains de mer. Vous joindrez-vous à nous cet après-midi, père ?
Non, je ne crois pas. Je n'ai pas très bien dormi.
Il vaut mieux, je crois, que tu ne te baignes pas tous les jours. Une angine de poitrine est si vite arrivée.
Avez-vous entendu du bruit cette nuit dans la maison ?
Non, rien. À part des ronflements.
Non, je n'ai rien entendu.
Si, moi, j'ai entendu quelque chose.
Ah, qu'est-ce que tu as entendu ?
J'ai entendu une voix qui murmurait, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, et puis elle s'est mise à gémir et à taper du pied.
Oh non, vous n'allez pas recommencer avec vos fadaises comme à Jersey.
La voix disait, Adèle, Adèle, il faut jeter Auguste à la porte.
Oh Adèle, veux-tu finir avec ça ?
Je lui ai demandé, si je mets Auguste à la porte, est-ce qu'Albert reviendra ? Elle a dit, Albert reviendra très bientôt, il attend une lettre de toi.
Victor.
Moi, je n'ai pas entendu de voix. J'ai entendu quelqu'un qui montait l'escalier. Elle s'arrêtait un instant devant ma porte, et puis elle est redescendue. Et c'était bien sûr celle qui est restée en France. 3 jours après avoir terminé mon dernier poème en son honneur.
Je vois que les esprits sont en pleine forme. Pensez à leur demander si la traversée depuis Jersey s'est bien passée.
Je vais me mettre au travail. À tout à l'heure.
Oh, ce cher fils. Comment peut-on passer ses journées avec Shakespeare et être aussi grossièrement terre-à-terre ? Voilà ce que je ne comprendrai jamais. Figure-toi, ma chère femme, que j'ai eu confirmation par les domestiques que nous avons officiellement emménagé dans une maison hantée.
Comment ça ?
Elle était habitée par une femme qui s'y est suicidée, il y a 3 mois. Voilà pourquoi nous avons pu la louer aussi facilement. Personne, semble-t-il, sur l'île ne veut y vivre.
Et c'est maintenant que tu me dis ça ?
Ma chère Adèle, j'ai besoin de la compagnie des esprits. La seule fréquentation des vivants ne peut suffire au poète.
Ah bah merci pour les vivantes qui s'occupent de la maison. Je te préviens, si Madame de Girardin revient ici avec ses tables tournantes, je m'en vais.
C'est le lieutenant Albert Pinson qui est venu cette nuit. Je l'ai senti qui entrait dans ma chambre.
Adèle, ça suffit.
Adèle, je vais rendre une visite à Madame Brown cet après-midi. Veux-tu venir avec moi ?
Non, maman, j'aime mieux rester ici à jouer du piano.
Tu n'es pas sortie de la maison depuis une semaine. La fraîche te ferait du bien.
Et je sortirai à 4 heures pour apporter des serviettes à Charles et François-Victor quand ils sortiront de l'eau. Pouvez-vous sortir ? J'aimerais me mettre au piano.
Adèle, il faut que tu apprennes à jouer pendant qu'on parle. J'écris bien au milieu de vos chamailleries, moi.
Mais peut-être, mais moi j'ai besoin de silence pour composer.
Le génie, ma fille, n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Ça y est.
Ne peux-tu l'emmener en promenade avec toi ce matin ?
Je doute que cela soit très agréable pour elle. Je vais visiter la prison de Lille, là où ce malheureux Tapner a été emprisonné. J'irai voir son gibet, puis sa tombe.
C'est d'une gaieté.
Jusqu'au bout, j'aurais tenté de sauver la vie de ce malheureux. Si les habitants de Guernesey l'avaient vu se balancer au bout d'une corde, ils auraient mesuré toute l'horreur de la peine de mort.
J'en doute fort. Sous la Révolution, les Français raffolaient du spectacle de la guillotine.
Mais le peuple était alors dans un état de rage, proche de la folie. Ici, sur cette île paisible, comment une chose aussi barbare a-t-elle pu se produire ? Tiens, en parlant de ça, je vais faire changer toutes les fenêtres.
Je ne vois pas le rapport.
Je ne veux pas de fenêtres à guillotine chez moi. Je vais faire mettre des fenêtres à la française.
Tu n'es pas sérieux, Victor.
Je passe mes journées à noircir des pages de mots, Adèle. Je suis bien placé pour savoir ce qu'ils signifient. Je vais aller trouver un ouvrier qu'on m'a conseillé.
Nous ne savons même pas combien de temps nous resterons à Guernesey. Pourquoi dépenser de l'argent pour cette maison ?
Je ne t'ai pas dit ? J'ai bien l'intention de finir mes jours ici.
Ah bon ? Toi, peut-être. Et ta famille ? Et ta fille ?
Adèle va épouser Auguste Vacry. Et ils seront ravis de vivre avec nous.
Victor, elle te l'a dit, elle ne veut pas de lui.
Elle changera d'avis. Elle sait que ce mariage me rendrait le plus heureux des hommes. Léopoldine a épousé Charles et Adèle épousera son frère. C'est l'univers qui en a décidé ainsi pour que ma chère fille continue à être présente parmi nous.
Moi aussi, il n'y a pas une journée où je ne pense pas à Léopoldine. Mais c'est injuste de faire porter ce poids à Adèle.
Quel poids ? Nous vivrons tous ensemble, en famille. Guernesey sera la terre promise des Hugo.
Tu oublies que nous pouvons être expulsés d'ici à tout moment.
Sauf si l'on est propriétaire.
Et comment le deviendrons-nous ?
Adèle, le succès des contemplations dépassera celui de toutes mes autres œuvres. Léopoldine me l'a dit hier soir.
N'oublie pas que tu as des ennemis à Paris, Victor.
Les critiques peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Le peuple se battra pour lire Victor Hugo. Et ce livre me donnera un toit.
Victor Hugo ne se trompe pas. Les Contemplations paraissent le 23 avril 1856 et connaissent un succès fulgurant. Le premier tirage s'écoule en une journée. Victor Hugo touche 18 000 francs, l'équivalent de 24 ans du salaire d'un ouvrier de l'époque. Trois semaines plus tard, il achète la demeure de ses rêves à Guernesey, qu'il baptise Hauteville House. Très vite, il se passionne pour la décoration de la maison. Il supervise d'importants travaux et passe son temps à courir les brocantes avec Juliette Drouet. Le 17 juin 1856, Victor Hugo aide Juliette à transporter un coffre jusqu'à sa maison voisine de la Falue.
Allez, encore un effort, on y est presque.
Ce n'est plus de mon âge.
Je viens d'avoir 50 ans, mon cher. J'ai porté hier les deux tables de chevet à dos toute seule. Allez.
Moi, j'en ai 54. À nos âges, 4 ans, c'est une différence capitale. Il n'y a personne chez toi ?
Si, le serin. Par ici. On va le mettre dans la salle à manger. Voilà. Comme il est beau.
Tout compte fait, je me demande s'il ne serait pas mieux chez moi. Il irait merveilleusement bien avec le guéridon que j'ai acheté chez Froward hier.
Mon cher, je vous ai laissé acheter le petit meuble chinois que je convoitais. Alors le coffre, je le garde.
Soit, mais je vous ai laissé en échange la Vierge à l'enfant. On est quitte.
Si vous me laissez le coffre, je vous donnerai en échange un objet que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Si tu essaies de te débarrasser de ta tapisserie normande, Madame Bishop m'a confirmé que tu l'avais achetée 10 fois trop cher. Elle ne vaut pas un clou.
Regardez.
Une robe ?
C'est le costume que je portais le jour où nous nous sommes rencontrés, quand je jouais la princesse Negroni au théâtre.
Et vous l'avez gardé toutes ces années ? Du taffetas violet. Quand je pense que mes yeux se sont posés sur lui sans savoir que celle qui le portait allait m'accompagner toute ma vie.
Je ne suis pas sûre, hélas, que je rentrerai encore dedans. Je me suis dit qu'il serait du plus bel effet à Hauteville House. Peut-être dans votre chambre.
Je ne suis pas sûr qu'Adèle soit de cet avis. Je le garderai dans un endroit où je pourrais l'adorer en secret. En attendant, je vais te rendre le tapis rouge et or. Hier, je me suis aperçu qu'il y avait une fleur de lys brodée dans un des coins.
Bon, c'est absurde, il est si beau. Personne ne voit cette fleur de lys.
Mais peut-être, mais moi, je sais qu'elle est là. Vois-tu, je considère Hauteville House comme une de mes œuvres. C'est une mosaïque, où chaque objet donne une dimension nouvelle aux autres. Laisser traîner une fleur de lys dans la maison de Victor Hugo, c'est comme laisser un alexandrin boiteux au milieu des contemplations.
Tu as raison. Nous ferons de Hauteville House un temple de ta divinité. Hier, j'ai encore vu des curieux qui voulaient la visiter.
J'ai donné consigne à Suzanne de ne laisser entrer personne, sinon je n'arriverai jamais à travailler. Il le faut bien, puisque je suis le seul dans cette maison à écrire.
Tu exagères. Charles m'a donné de nouvelles pages à recopier hier.
Perseverando. Telle est la devise que j'ai fait graver dans la salle à manger. Persévérer, voilà ce qui fait le poète. L'inspiration n'est rien sans un travail acharné. C'est ce que j'ai essayé d'inculquer à mes fils, en vain. Ils écrivent une heure par-ci, une heure par-là, et ça suffit à leurs ambitions.
François-Victor a entrepris de traduire tout Shakespeare, ce n'est pas rien comme ambition.
Tu me l'apprends. Le seul projet que je lui connais est de transformer la salle à manger en billard. Tu imagines Victor Hugo écrire le dernier vers des Contemplations et descendre jouer au billard ?
Mon cher, il faut accepter les imperfections des simples mortels que nous sommes et qui vous aiment.
Même ma femme, qui avait commencé à écrire ma biographie, s'est arrêtée aussi. On ne sait pas pourquoi.
Je crois que votre fille lui donne du souci.
Adèle a un chagrin d'amour. Soit, mais que faire ? Croit-elle être la seule, depuis que l'humanité existe, à avoir le cœur brisé ?
Vous êtes dur avec elle.
Elle joue de moins en moins du piano. Elle ne compose plus du tout. Moi, le lendemain de la mort de Léopoldine, j'étais à ma table de travail, tu te souviens ? Il n'y a pas de plus bel hommage aux morts que de vivre pour eux jusqu'à notre dernier souffle.
Adèle vous a demandé de faire éditer sa musique en Belgique. Et vous ne l'avez guère aidée.
J'aimerais mieux qu'elle se marie. Mais non, elle refuse d'épouser Auguste Vacry, qui est à ses pieds et que toute la famille adore. Elle ne pense qu'à son lieutenant.
Le cœur a ses raisons. N'êtes-vous pas bien placé pour le savoir ?
Cela n'a rien à voir. L'amour qui nous unit depuis près de 30 ans, toi et moi, est un feu sublime et partagé. L'obsession de ma fille pour ce soudard anglais n'est pas de l'amour. C'est une maladie de l'esprit.
Peut-être. Mais elle ne pourra en guérir qu'en suivant les inclinations de son cœur.
Sa mère a organisé une réception pour elle le jour de la Sainte Adèle. En a-t-elle été touchée ?
Non.
Tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est qu'avec autant de bibelots dans la maison, ce n'était plus une fête, mais un vernissage.
Elle n'a pas tout à fait tort.
Elle me fait la guerre parce que l'odeur de ma pipe l'incommode. Elle ne supporte plus rien. À 26 ans, elle a déjà des manies de centenaire.
Elle est fâchée contre son père. Cela lui passera. Allez, filez déjeuner. Je vais déballer les faïences.
Nous sommes deux drôles.
Ce soir.
Aux larges épaules. De joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix.
Pour Victor Hugo et Juliette Drouet, Guernesey est un paradis. Deux années s'écoulent, rythmées par la décoration de leur maison et par les travaux d'écriture. Le matin, Victor Hugo écrit La Légende des siècles face à la mer, depuis le dernier étage de sa maison qu'il appelle le Lookout. Juliette, elle, est devenue la copiste de toute la famille. Elle remet au propre les manuscrits de Victor, de Charles et de François Victor, y ajoutant notes et corrections. Mais l'unité de la famille Hugo ne tarde pas à se disloquer. La santé mentale d'Adèle se dégrade. Sa mère veut l'emmener en Europe, mais Victor Hugo s'y oppose fermement. Le patriarche veut garder sa tribu autour de lui et ne supporte aucune opposition. François Victor et Charles, qui rêvent de partir eux aussi, entrent régulièrement en conflit avec leur père. Peu avant Noël, Adèle Fouché décide de revenir à la charge.
Ah, quel soleil! Je n'écris jamais aussi bien que lorsque le temps permet de voir la France. J'ai besoin d'être loin d'elle et de la voir sous les yeux en même temps. Ce jardin mériterait d'être mieux entretenu. À tout à l'heure, je reviens pour le déjeuner.
Pouvez-vous déposer les cartes de vœux à la poste?
Venez. Adèle, veux-tu signer la carte de vœux pour Auguste?
Je la signerai plus tard.
Elle part à la poste ce matin.
Eh bien, tant pis, je ne la signerai pas.
Maman, je vous ai demandé de ne pas nettoyer l'argenterie quand je joue.
Mais je ne fais rien, Adèle.
Je n'en peux plus. Dès que je sors de ma chambre, vous me persécutez.
Et voilà. Ces sautes d'humeur ont fini par chasser le pauvre Vacry. Je le comprends, ma fille n'aime qu'elle m'aime.
Monsieur, je ne peux plus entendre cela.
C'est pourtant la vérité.
Monsieur, vous avez votre vie avec Madame Drouet, soit. Mais ce qui est inacceptable, c'est de faire comme si Adèle n'existait pas. Votre fille dépérit sous vos yeux. Faire du jardinage et de la tapisserie n'est pas un horizon suffisant pour une jeune fille de 28 ans.
Aucune occupation ne peut combler la sécheresse de son cœur. Que faisiez-vous, madame, à 28 ans? Vous étiez mariée à Victor Hugo, et au passage bien occupée avec ce cher Sainte-Beuve. Votre cœur, votre esprit était tourné vers l'amour. Adèle n'a pas besoin d'aller au théâtre ou concert, que sais-je. Elle a besoin d'aimer.
Précisément. Si je veux l'emmener en voyage, ce n'est pas seulement pour lui changer les idées. C'est pour lui trouver un mari.
Dieu vous entende. Ce ne sera pas une tâche facile. Elle n'a pas la douceur de Léopoldine.
L'ardeur que vous mettez à décorer cette maison, ne pourriez-vous en consacrer un dixième à votre fille?
Mais c'est ce que je fais. Si j'aménage Hauteville House, c'est pour que ma famille soit heureuse.
La première qualité d'une maison n'est pas d'être belle, mais d'être hospitalière. Hauteville House n'est pas un foyer, c'est un musée. Les trois quarts des pièces sont inhabitables, à force de meubles d'arrière-grand-mère, de lits à baldaquins, de banquettes du Moyen-Âge.
Eh bien, je vois que la fronde est générale. Mais dis-moi, François-Victor, laquelle de tes productions littéraires t'a permis de t'acheter ne serait-ce qu'une commode Louis XV?
Voilà un formidable argument. Je vous laisse. Le raté va aller faire un tour, à défaut de pouvoir prendre des vacances.
Pff, des vacances? Tu entends cela, Adèle?
Crois-tu que Dante ou Shakespeare soient déjà partis en vacances? Ce qui me chagrine, ce n'est pas tant que mon fils ne soit pas un écrivain, c'est qu'il ne sache même pas ce que c'est.
François-Victor écrirait mieux si vous ne le jugiez pas en permanence.
Et comment veux-tu que je ne juge pas un homme qui a écrit « Guernesey est un rocher qui domine la mer » ?
Eh bien, cela me paraît plutôt juste, non ?
Oui, après tout c'est vrai, Guernesey est au bord de la mer, pourquoi écrire des milliers de vers là-dessus ? Tu as raison, mon fils passera à la postérité et pas moi.
Permettez-moi de me rendre à Bruxelles avec Adèle, je vous en prie.
10 jours plus tard, mère et fille embarquent pour Southampton, d'où elles gagnent le Havre, puis Paris. Juliette Drouet, qui se réjouissait d'avoir son amant pour elle toute seule, déchante rapidement. Rendue maussade par l'absence de sa femme et de sa fille, Victor Hugo se jette à corps perdu dans le travail. Hauteville House prend des allures de monastère. François Victor poursuit ses traductions de Shakespeare, pendant que Charles écrit des romans sans conviction, écrasé par le génie de son père. En 1859, Napoléon III décrète une amnistie générale pour tous les proscrits. Mais Victor Hugo refuse de rentrer en France. Sa décision de prolonger son exil ne fait que renforcer les tensions dans la famille Hugo. La mère et ses enfants se rendent désormais régulièrement à Paris. C'est alors que le 25 avril 1860, Juliette Drouet va devenir l'indispensable complice d'une des plus grandes œuvres de la littérature mondiale.
Qu'il fait froid. Ce printemps est glacial.
Que veux-tu ? J'aurais dû choisir de m'exiler en Andalousie.
Et vous n'avez même pas pris votre gilet ? Ce matin, j'avais pourtant attaché un chiffon rouge à ma fenêtre pour vous rappeler de le prendre. Ne l'avez-vous pas vu ?
Oui, oui.
À quoi pensez-vous donc, mon cher ami ?
Je pense que j'ai fait ce matin à 6 heures quelque chose que tout le monde me pressait de faire depuis fort longtemps.
Vous vous êtes enfin décidé à soigner votre anthrax à Bruxelles ?
Il s'agit bien de mon anthrax. Juliette. Ce matin, j'ai rouvert la malle au manuscrit. J'en ai tiré le manuscrit des misères.
C'est vrai ? Vous allez le reprendre ?
Je n'en ai pas dormi de la nuit. J'ai cru un moment que c'était Léopoldine, ma chère enfant, qui venait me visiter, mais non. C'était l'esprit de l'univers qui me parlait. Les misères étaient le livre du sacrifice. Désormais, je vais écrire le livre du progrès, et il s'appellera Les Misérables.
Mais quelle merveilleuse nouvelle ! Cela va faire 12 ans ! 12 ans que j'attends ce jour ! Que j'ai copié ce manuscrit, que je l'ai protégé dans ma chambre, transporté dans le train, caché contre ma poitrine. Marius, Javert, Cosette, jamais ils ne m'ont quitté.
Sans toi, ils n'auraient jamais existé. Tu es présente dans chacune de ces pages. L'enfance de Cosette, c'est la tienne. Son adolescence au couvent, c'est la tienne. La pudeur outragée de Fantine, c'est la tienne, quand tu es arrivée sans ressources à Paris. Sais-tu que j'ai choisi la date de notre première nuit ensemble pour marier Marius et Cosette ? Le 16 février 1833.
Mon adoré, si tu savais comme j'ai hâte de retrouver cette petite fille. Le cœur me brûle de refaire connaissance avec le monde de ton génie, dont les tristesses me font souffrir plus que les miennes.
Je ne te cache pas qu'il reste encore du travail. Il me faut concilier le père de France que j'étais en 1848 avec le proscrit que je suis aujourd'hui. Mais je me sens plus libre à présent que ce scélérat m'a gracié. Mon exil est désormais volontaire.
Je le sais, et je vous comprends. Mais parfois mon cœur se serre à l'idée que nous ne reverrons peut-être jamais notre patrie.
Tu vois ces côtes au loin ? C'est la France. Mais ce n'est plus la France. La liberté a quitté mon pays. Juliette, je rentrerai avec elle, ou je mourrai en exil.
Victor Hugo se met au travail comme un forcené. Le 30 juin 1861, il inscrit le mot « fin » sur la dernière page des Misérables. Le livre est publié en 1862 et le succès public est colossal. Le livre est traduit en 9 langues. Victor Hugo voyage désormais régulièrement en Europe avec Juliette, son épouse ou les enfants. Mais Hauteville House demeure le point de ralliement du clan Hugo. Chaque succès littéraire y est fêté et ressoude régulièrement la famille. Mais le 18 juin 1863, Adèle Hugo s'enfuit de Guernesey sous le prétexte de rejoindre sa mère à Paris. En réalité, elle est partie de l'autre côté de l'Atlantique, en Nouvelle-Angleterre, à Halifax. Là-bas se trouve celui pour qui elle nourrit un amour obsessionnel, le lieutenant anglais Albert Pinson. Le 7 octobre 1863, Victor Hugo reçoit une lettre d'Adèle qui lui annonce son mariage avec le lieutenant. Le surlendemain, il fait paraître dans le journal de Guernesey l'annonce du mariage. Mais 15 jours plus tard, François Victor reçoit deux lettres qui vont bouleverser la vie des Hugo.
Encore un nouveau lot d'assiettes en faïence. Cette fois-ci, je ne vois vraiment pas où on va les mettre. Tous les buffets sont pleins à craquer.
Eh bien, on les mettra au plafond. Adèle, je crois qu'il va falloir repousser à samedi le repas des enfants pauvres.
Et pourquoi donc ?
Parce que les gâteaux et les bonbons que j'ai commandés du continent ne sont toujours pas arrivés.
Eh bien, ils peuvent s'en passer, non ?
Voilà une vraie bourgeoise. Parce que Gavroche se contente d'un morceau de pain, tu crois qu'il ne préfère pas manger de la brioche.
Père ! Mère ! J'ai quelque chose à vous dire.
Tu es tout pâle. Qu'est-ce que c'est que cette lettre que tu tiens ? Oh mon Dieu ! Victor !
Quoi ?
Il est arrivé malheur à Adèle, j'en suis sûre.
Qu'est-ce que tu dis ?
Non, non, rassurez-vous. Elle va bien.
Alors qu'est-ce que c'est ?
Elle nous a trompés. Elle n'a pas épousé le lieutenant Pinson.
J'en étais sûr.
Comment le sais-tu ? Elle t'a écrit ?
J'ai reçu deux lettres au courrier de ce matin. L'une est adressée à vous, père, de la part du lieutenant Pinson.
Tu ouvres mon courrier maintenant ? De mieux en mieux ? Donne. Ma hiérarchie m'ayant informé de l'annonce de mon mariage avec Adèle Hugo, je certifie sur l'honneur n'avoir contracté aucun engagement avec mademoiselle votre fille, que je n'ai pas revue depuis son départ de Jersey en 1855. Elle se trouve actuellement à Halifax et se conduit d'une manière embarrassante pour moi. C'est le déshonneur. Il a déshonoré ma fille. Quel abominable gueux.
Oh, Victor.
Je vais le provoquer en duel.
Calme-toi. Après tout, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé.
Alors c'est François Victor qui le fera.
Allons, papa, maman a raison. Nous ne savons même pas s'il s'est passé quelque chose entre eux. Peut-être qu'il ne lui a rien promis. Je ne vais pas provoquer en duel un homme qui n'a pas couché avec ma sœur.
Un vrai lion, ce que je vois.
Peut-être pourrait-on intenter une action en justice.
Et sous quel motif ? C'est Adèle qui risque d'être la risée de tous, si nous faisons quoi que ce soit.
Et la seconde lettre ?
Elle m'est adressée personnellement, de la part de sa logeuse à Halifax. Il semblerait que cette brave femme ne connaissait pas jusqu'ici la véritable identité d'Adèle. Elle se fait appeler là-bas Miss Lully. Sa logeuse a vu mon nom au dos d'un mandat que je lui ai adressé et a pris l'initiative de m'écrire.
Montre voir. Je n'y vois rien. Lis, Victor.
L'état de santé de mademoiselle Adèle nous donne bien des inquiétudes. Elle semble déterminée par tous les moyens à devenir la femme du lieutenant Pinson, alors même qu'il lui a dit qu'il ne l'épouserait jamais. Elle est à court d'argent, si bien que nous avons dû lui avancer le montant de son loyer. Il semblerait qu'elle ait dépensé une fortune pour payer un magnétiseur qui lui a promis qu'il pourrait lui faire épouser le lieutenant sous hypnose. Elle se promène habillée tout en noir, parfois avec des vêtements d'homme. J'en ai assez entendu.
Oh, mon Dieu. Je vais aller la chercher.
Cela ne servira à rien. Tu n'arriveras pas à la raisonner.
On ne peut pas la laisser comme ça et il peut lui arriver malheur.
Tu vas mettre 3 semaines pour arriver à Halifax. Et quand tu arriveras, elle sera peut-être partie, Dieu sait où. Il vaut mieux attendre qu'elle se décide à rentrer.
Je vais lui envoyer de l'argent pour payer son billet de retour. Et lui dire que c'est le dernier qu'elle recevra de notre part.
C'est inutile. Elle va tout dépenser dans sa folie.
Alors, que proposes-tu ?
Il faut envoyer l'argent directement à sa logeuse, pour son loyer, sa nourriture, avec la consigne de ne lui donner que le strict nécessaire. Plus un sou à Adèle. Pour le reste, il faut s'en remettre à Dieu.
Mon enfant. Mon cœur se brise quand je l'imagine là-bas, toute seule.
Et moi donc, la fille de Victor Hugo, ancien pair de France, réduite à payer un charlatan pour se trouver un mari.
C'est notre faute. Nous l'avons trop négligée.
Ça ne sert à rien de se morfondre. Pourquoi ne partez-vous pas en Belgique ? Cela vous ferait du bien et vous pourriez consulter un spécialiste, pour vos yeux.
À mon âge, il est normal de ne plus y voir clair.
Papa a raison. Il faut surveiller cela. C'est peut-être une congestion. Vous toussez aussi, de plus en plus.
Si nous partons à Bruxelles, nous rejoindrez-vous ? La maison est suffisamment grande. Vous auriez vos propres appartements, avec une entrée et une sortie.
Je ne puis partir avant l'été. Je n'ai pas fini de relire les travailleurs de la mer.
Vous les terminerez là-bas. Vous y avez bien achevé les misérables en compagnie de Madame Drouet.
C'était une exception. C'est ici mon nid de travail. Les écrivains aussi ont leur atelier, voyez-vous.
pas moyen de dormir. Ego, Hugo. Cette devise qui m'a tant de fois donné du courage ne me sert plus à rien. Tous les succès du monde ne peuvent consoler un père du malheur de sa fille. Tant qu'Adèle sera dans ce naufrage, j'aurai des heures d'amertume profonde. Que faire ? Mon Dieu. Elle seule peut se sauver d'elle-même. Mais elle ne le veut pas. Ce misérable Pinson ne lui épargne aucune humiliation. Il affecte de passer en voiture sous sa fenêtre avec une femme. Quand est-ce que sa fierté se révoltera ? Elle est si hautaine avec les siens, et si faible avec ce gueux. Tant qu'elle continuera cette vie de supplice, il me sera impossible d'écrire une ligne de 93, ce grand roman sur la Révolution française que je projette depuis tant d'années. Pour un travail de cette ampleur, j'ai besoin d'un profond repos d'esprit que je ne trouve ni dans ma famille, ni loin d'elle.
Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est qui parfois embrasse le soir de hardis cavaliers. Enfin, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Pendant que Victor Hugo noie son chagrin dans le travail, sa fille Adèle sombre dans la folie. Elle suit le lieutenant Pinson à la Barbade, où son régiment est affecté. Sa mère, dont la santé s'est dégradée, meurt en 1868 à Bruxelles sans avoir revu sa fille. Victor Hugo, accablé, accompagne le cercueil de sa femme jusqu'à la frontière française. Seules les naissances de ses petits-enfants, Georges et Jeanne, adoucissent son chagrin. À Guernesey, le patriarche se transforme en grand-père attendri. Le 3 septembre 1870, Napoléon III est destitué suite à la défaite de Sedan. Victor Hugo décide aussitôt de rentrer en France. Durant ses 15 années à Guernesey, il est devenu un mythe, le symbole de l'opposition à la tyrannie. Le soir du 5 septembre 1870, son train est sur le point d'arriver à la gare du Nord, où l'attend une foule en délire.
Dans quelques instants, je vais poser le pied sur le sol de Paris pour la première fois depuis 15 ans. Tant de drames, de joie et de chagrin ont émaillé ces années d'exil. Ma chère femme n'est plus. Ma fille n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais une seule chose ne m'a jamais quitté. Le goût de la liberté et l'amour de mon pays. On m'a dit que le chêne que j'ai planté à Haute-Villaus était sorti de terre ce matin. Je l'ai baptisé le chêne des États-Unis d'Europe. Lorsque je l'ai planté, le 14 juillet 1870, la guerre éclatait en Europe et le pouvoir du pape vacillait à Rome. Non, ce n'est pas un hasard s'il a germé aujourd'hui, le jour de mon retour en France. Dans 100 ans, l'Europe sera unie. Il n'y aura plus de guerre, plus de pape, plus d'église. La paix régnera partout. Les peuples seront libérés de la tyrannie. Le chêne sera immense. Et mes arrière-petits-enfants joueront avec insouciance sous son ombre. Me voilà arrivé. Dans la bataille qui s'annonce, je défendrai Paris de toutes mes forces. Je ne me battrai plus seulement en poète, mais cette fois, à côté du peuple, en soldat.
Victor Hugo à Guernesey de Marjorie Philibert avec Victor Hugo, Yannick Choira, Adèle Fouché, Élise Caron, François Victor Hugo, Thomas Guéné, Adèle Hugo, Sarah Branins, Juliette Drouet, Constance Dolé. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Éric Boisset et Éric Villenfin, assistant à la réalisation Jules Benveniste, réalisation Louise Loubrieux.
France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire.
Jean-Marc Ovas, nous avons partagé quelques années de la vie de Victor Hugo à Guernesey, un exil qui au total a compté 20 années, un exil contraint d'abord jusqu'en 1859, puis un exil volontaire jusqu'en 1870. Cet exil est une véritable épreuve pour Victor Hugo avec des périodes de réel abattement, de dépression, la peur aussi d'être oublié.
Alors, il y a eu plusieurs phases, évidemment, dans cet exil. Il y a eu des phases, effectivement, de basse pression, mais c'est plutôt l'inverse au début, en tous les cas, étonnamment, hein, peut-être, mais il arrive très énervé par ce qui s'est passé en France, par ce coup d'État, par l'impression d'avoir été un peu berné par Louis-Napoléon Bonaparte, puisqu'il l'avait soutenu la première année pour sa candidature en 48, parce qu'il s'était présenté avec un programme, disons, progressiste. Et puis très vite, il avait compris qu'il avait fait une erreur, mais enfin, il l'a quand même soutenu un petit peu. Et puis alors, arrivé au coup d'État, c'est vraiment un point de non-retour, et il est furieux, et cette colère, presque une fureur, lui redonne une sorte de dynamisme incroyable, et il écrit des œuvres étonnantes, en commençant par le fameux pamphlet Napoléon le Petit contre Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il écrit en Belgique. Donc ce premier exil, c'est l'exil belge, qu'on oublie souvent un peu. Ensuite, il y a le moment où il s'apaise au contact de la nature, c'est l'arrivée dans l'île anglo-normande à Jersey, quelques mois après. Et là, c'est très intéressant aussi, puisque il le dira lui-même plusieurs fois, il est vraiment apaisé par la nature, et il va revenir progressivement de la poésie la plus polémique, les diatribes, le pamphlet en vers, qui est la satire, qui est châtiment, il va revenir progressivement, apaisé par la nature, vers la poésie lyrique, d'où il venait à l'origine, pour le dire schématiquement, ce qu'il écrivait avant l'exil. Donc le rôle de la nature et des îles anglo-normandes est très important. Finalement, il n'avait jamais vécu à la campagne, tout simplement. Oui. C'était un Parisien. Alors, il le connaissait un peu pour avoir voyagé, mais ce grand écrivain de la nature se découvre à Jersey.
Et on l'a entendu, c'est à Guernesey qu'il va se remettre à l'écriture des Misérables, qu'il va achever en 1862.
Voilà, donc cette période de Jersey d'abord, donc en 3 ans, est très dense. Et puis après, troisième exil. Premier exil, la Belgique. Deuxième exil, Jersey. Troisième exil, Guernesey. Il parle lui-même d'exil dans l'exil, ce qui est quand même fort, puisque en réalité, il a été expulsé de Jersey. Donc, il a été expulsé par l'Angleterre après avoir été expulsé par la France. Mais les îles anglo-normandes ont un statut un peu indépendant et différent à Jersey et à Guernesey. Et donc, Guernesey accepte de l'accueillir alors même qu'il a été chassé de Jersey et qu'il n'a pas été expulsé d'Angleterre. Ce sont des nuances importantes. Et à Guernesey, il sait que il ne pourra plus être expulsé s'il devient propriétaire. C'est la raison pour laquelle il achète cette maison et qu'il devient propriétaire d'une maison pour la première fois de sa vie, à 53 ans. Ce qui est
acheter une maison, donc Hauteville House, oui. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il considère qu'il va vivre là tout le temps, que son exil ne s'arrêtera jamais ?
C'est l'installation dans l'exil. Quand il dédie les travailleurs de la mer à l'île de Guernesey, il parle de son tombeau probable. C'est Dieu seul qui le sait, mais évidemment, il peut croire, et il a cru qu'il mourrait en exil. Et au moment où il achète, sa femme Adèle est très inquiète et elle dit qu'elle a une vision en voyant son tombeau qui sort de la maison, et elle n'a pas tort puisque elle, il mourra, mais pas Victor Hugo.
Oui, donc lui, il a des périodes d'abattement, on l'a dit, et puis il a ces périodes aussi de grande création littéraire. C'est peut-être ce qui le sauve par rapport aux autres membres de sa famille, notamment ses enfants,
qui subissent cet exil d'une manière assez nette.
Oui, alors pour les périodes d'abattement, je ne crois pas très cyclothymique, donc c'est vraiment la fin de l'exil qui est très dure, donc la fin des années 60, et c'est d'une noirceur qui est très particulière, et qu'on voit très bien dans ce roman le plus noir de son œuvre, et pas le plus connu, mais très fascinant aussi, qui est L'homme qui rit, qui est le dernier roman de l'exil, qui en plus marche assez mal sur le plan des ventes, ce qui est quand même incroyable par rapport aux œuvres précédentes. Bref, peut-être à la fin de l'exil, on peut parler d'abattement, bien sûr, sur la durée, mais pas tellement, en fait, avant ou moins, ou pas, bien sûr, il y a ses problèmes familiaux et d'autres, mais quand même, il est galvanisé par son œuvre.
Il est galvanisé par lui-même aussi, donc sa famille, quand même, doit subir son égo assez développé, quoi.
Oui, c'est ce qu'on dit, mais ça, c'est sûr que c'est pas facile de vivre avec un génie, certainement. Mais enfin, je pense que les périodes de tension étaient quand même minoritaires par rapport à une vie plutôt agréable, sauf qu'évidemment, les enfants étaient grands et aspiraient à autre chose.
Et puis, il y a cette bigamie, quand même, qui est particulière, Adèle et Juliette.
Oui, bigamie relative, en ce sens que, à un moment, Adèle a été assez... Alors, au début, pendant longtemps, elle a essayé de chasser Juliette de la vie de son mari. Et puis, à la fin, elle s'y est faite. Et surtout, elle a même fini par en être reconnaissante de rester avec lui en exil quand elle partait, puisqu'elle elle en a eu assez. Comme on l'a vu, elle revient à Paris. Elle quitte Guernesey, pardon, le plus possible. Si bien qu'elle était finalement heureuse d'avoir quelqu'un pour veiller sur lui, sur l'île. Et à la fin, elle l'invite. Hein, elle se rencontre. Elles s'écrivent dans les toutes dernières années.
J'aimerais que vous me parliez, Jean-Marc Ovaz, de cette maison, Hauteville House. C'est une maison, donc c'est une demeure, mais c'est aussi une création, une véritable œuvre d'art fabriquée par Victor Hugo.
C'est une œuvre. Et on a une lettre de Victor Hugo où il explique qu'il a 4 chantiers en même temps. Il écrit un roman, une pièce de théâtre, un recueil de poèmes et Hauteville House. Donc sa maison, dans sa propre lettre, il la met à l'égal d'une de ses œuvres. Donc c'est effectivement... Et puis alors on a une chance incroyable, ce qui est quand même très rare, assez rare dans la littérature, c'est qu'on peut la voir aujourd'hui encore.
Vous la connaissez bien, cette maison.
Sans transformation.
Oui.
Et donc c'est merveilleux parce que, c'est compliqué, il faut aller jusqu'à Guernesey, mais on peut la visiter. Et dans l'état, il n'y a pas eu de rupture entre son départ quasiment et sa transformation en musée, ce qui est extraordinaire.
Vous pouvez nous la décrire un peu ?
Oui, alors c'est une maison fabuleuse avec un... Alors, de l'extérieur, elle ne paye pas de mine, elle a une façade grise et austère comme les autres maisons de l'île. On entre à l'intérieur et là, on a un décor incroyable qui est très sombre. Ça frappe beaucoup au début quand on entre dans la maison en bas et on chemine vers la lumière qui est au dernier étage éclatante où on arrive dans une chambre de verre, ce qu'ils appellent le look-out. Et entre les deux, on monte progressivement de la nuit à la lumière avec des symboles partout. Tout est pensé sur tous les murs, le plafond. Il y a des inscriptions philosophique en latin ou pas forcément en latin d'ailleurs, mais souvent en latin. Et puis toutes les pièces ont une caractéristique, elles sont décorées. La salle à manger est très connue avec ses faïences de Delphes et son grand H, ce double H de Hauteville House qui forme une cheminée, des meubles sombres en bas, des tapisseries. C'est un ensemble incroyable que certaines personnes peuvent trouver oppressant. Le reproche qu'on peut lui faire, c'est le reproche que faisaient ses enfants, c'est-à-dire que c'est une maison qui est peut-être pas liée à l'habitation, mais plus
musée,
au décor.
Un peu, oui.
Et c'est un lieu vraiment extraordinaire.
Que va devenir la famille Hugo après donc le retour de Victor Hugo en France ? Adèle est décédée, la mère.
Alors, Adèle mère est la seule qui meurt en exil. Adèle Hugo devient folle et revient beaucoup plus tard des îles, des Antilles, en 73-74, pour être internée à Paris. Les deux fils meurent tragiquement, coup sur coup, enfin au même âge, mais ils avaient 2 ans d'écart, donc ils meurent, Charles
maladie,
en 71,
ouais.
François-Victor de maladie 2 ans après, ce qui est terrifiant pour Victor Hugo, qui, s'il n'avait pas eu ses petits-enfants, auraient eu du mal à survivre à tous ces drames. Il le dit lui-même, son dernier recueil étant L'art d'être grand-père, son rapport avec ses petits-enfants, qui sont
donc
aussi l'avenir du pays.
Seule Juliette Drouet restera donc jusqu'au bout aux côtés de Victor Hugo. Elle meurt en 1883 et Victor Hugo 2 ans plus tard, donc en 1885. Voilà, c'est une histoire qui s'achève avec la mort d'Adèle, la fille, en 1915. Merci beaucoup Jean-Marc Ovas, merci à Audrey Ripouille qui a réalisé cette émission, assistée de Frédéric Martin, à la technique Laurent Baudouin. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de l'imposante biographie que vous avez consacrée à Victor Hugo, Jean-Marc Ovas, en plusieurs volumes, édité chez Fayard, et à lire évidemment les œuvres complètes de Victor Hugo, en Pléiade ou en collection de poche, et à visiter, vous l'avez dit Jean-Marc Ovas, la maison de Victor Hugo à Guernesey, Hauteville House. C'est la fin pour aujourd'hui de cette émission. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant en emporte l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, nous partirons en septembre 1944 à Moscou en compagnie de Maurice Thorez qui vit en URSS depuis sa désertion au début de la guerre. Alors que la France se libère, le premier secrétaire du Parti communiste ronge son frein à Moscou et n'attend que le signal de De Gaulle pour rentrer. Mais les Français sont-ils prêts à pardonner à Thorez sa désertion? Je recevrai l'historienne Annette Vieillorca. 1944, le retour en France de Maurice Thorez, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter.